Radio Kapi.
Le journal, présenté par Belinda Bosuma. Le gouvernement congolais a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la vaccination de routine dans tout le pays. Ainsi, 10 millions de dollars ont été payés hier sur les 16 millions prévus cette année, a dit le ministre de la Santé publique. C'était à la clôture hier du 3e Forum national sur la vaccination. 4e et dernier jour ce jeudi de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2023 en Ituri. Les autorités scolaires de Boulé félicitent les soldats onusiens d'avoir escorté 225 finalistes à Fataki pour passer ces épreuves. Il s'agit pour la plupart des enfants des parents déplacés. Madame, Messieurs, bonjour. 10 millions de dollars payés par le gouvernement hier sur les 16 millions prévus cette année pour garantir la vaccination de routine sur toute l'étendue du pays. C'est ce qu'affirme le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. C'était hier lors d'une conférence de presse animée conjointement avec les partenaires de la santé après la clôture par le chef de l'État du 3e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite en RDC. Forum tenu de mardi à hier à Kinshasa, selon le docteur Roger Kamba, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir la vaccination de routine sur toute l'étendue du pays. On écoute le ministre de la Santé au micro de Grace Hamzati.
Pour notre part, en tant que gouvernement, tous les paiements de la vaccination que nous, on devait faire, ça a été fait. Pour cette année, on a payé 10 millions ce matin sur les 16 millions qu'on doit terminer avant la fin de l'année. Donc la RDC prend les mesures qui sont recommandées pour que la vaccination de routine soit la plus efficace possible. On doit atteindre un certain nombre de campagnes pour des maladies particulières. Exemple, la poliomyélite qui, elle, on s'est donné avec le chef de l'État l'objectif qu'en 2024, on éradique la poliomyélite. Et parce que c'est possible. Et pour ceci, nous avons mobilisé tous les gouverneurs. Vous voyez, on les fait venir tous à Kinshasa pour leur parler directement. Nous devons, en tant que prestataires de soins, aller expliquer de plus en plus que le vaccin, c'est un produit qu'on donne qui peut avoir des effets secondaires. Sauf que quand vous comparez le bénéfice du vaccin aux effets secondaires, il n'y a juste pas photo. Imaginez que par manque de vaccin, on a 500 enfants qui sont handicapés. C'est par manque de vaccin. Imaginez que l'Inde n'a plus d'adultes handicapés suite au vaccin, parce qu'ils ont réussi. Donc, nous devons effectivement bien communiquer auprès de nos communautés, et ça, c'est notre responsabilité, mais en même temps, assurer à ces communautés que la santé publique est là pour améliorer leur bien-être, et la vaccination, c'est l'un des moyens les plus efficaces.
La RDC a connu un progrès sur ses opportunités d'attirer les investisseurs. Sa note est passée de 5,1 sur 10 l'année passée à 5,5 principalement tirée par la performance macroéconomique et la gestion des finances publiques. C'est ce qui ressort de la présentation du rapport risque pays RDC élaboré par l'agence panafricaine Bloomfield Corporation. C'était hier à Kinshasa au cours de la 2e édition de la conférence risque pays RDC organisée par le ministère des Finances. Cette structure établit la cartographie des risques de la RDC en mettant en relief ses atouts, opportunités et ses axes d'amélioration. Le Premier ministre, qui salue ce progrès, réitère les efforts du gouvernement pour améliorer l'environnement socio-économique du pays afin d'attirer les investisseurs et les partenaires du développement. Écoutez Jean-Michel Samalou Kondé dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Je voudrais ici, après cette évaluation qui nous a été donnée et cette notation, heureusement en progressivité, mentionner que l'effort du gouvernement pour améliorer non seulement notre climat des affaires, mais surtout notre potentiel d'investissement va dans le sens de répondre à une question sociale du plus haut niveau, de la création des emplois et de la création des richesses. Ça passe par la diversification de notre économie. Mais nous reconnaissons que au-delà des efforts que nous faisons, la véritable réponse va nous venir du secteur privé, avec les investissements que nous attendons. Et nous sommes conscients de la diversification de l'économie qui doit intervenir dans notre pays. Cela passe d'abord par l'amélioration de nos infrastructures. Mais au cœur, d'abord, l'amélioration de notre système au niveau des infrastructures routières, parce que ça passe par là, pour qu'on puisse avoir le développement que nous voulons avoir. Mais à côté de cela, et je crois que ça c'est le plus important, c'est surtout le secteur de l'énergie. Et je vais rappeler que ce qui est attendu par nos populations, c'est plus d'emplois, surtout pour nos jeunes, et pour que nous puissions y arriver, nous avons justement besoin de cet investissement dont nous parlons aujourd'hui.
Signalons que cette conférence a réuni plusieurs personnalités du pays, des experts, des diplomates, chefs d'entreprise, cadres des secteurs privés et publics, ainsi que des partenaires du développement. Des sujets sur la diversification de l'économie congolaise ont été débattus. Et puis, stimuler le marché de l'électricité en RDC pour l'essor des zones rurales et périurbains, c'est l'idéal de la table ronde de 3 jours qui s'est clôture aujourd'hui à Kinshasa. Depuis mardi, il réunit près de 200 acteurs du secteur d'électricité. C'est sur initiative d'ANSER, Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Durant ces 3 jours, ANSER, aux côtés des acteurs privés et les différents partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, entendent examiner les ambitions du gouvernement congolais d'atteindre d'ici 2025 un taux national moyen d'électrification de 30% dans les zones rurales et périurbaines. Déjà dès ce mois de juillet jusqu'à octobre, à en croire ANSER, une vingtaine de micro-centrales de fourniture d'électricité vont être opérationnelles dans quelques milieux ruraux du pays. ANSER soutient que c'est l'heure d'affiner des stratégies idoines d'électrification des zones rurales et périurbaines. Idesbald Chinamula, directeur général de ANSER, parle des attentes de cette table ronde.
C'est justement mobiliser des partenariats techniques et financiers à travers la signature de plusieurs accords de financement, de soutien au développement du secteur de l'électricité, pas seulement avec les PTF, les partenaires techniques et financiers, mais aussi avec les secteurs privés et aussi d'autres organisations institutionnelles qui nous accompagnent. Deuxième attente, c'est recueillir les feedbacks des parties prenantes en vue de mieux structurer les PPP dans les secteurs de l'électricité en RDC. Troisième attente, c'est produire une feuille de route qui va nous servir de cadre de suivi des engagements et des accords entre parties. Les défis majeurs pour nous, c'est que nous entendons beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements et beaucoup d'annonces en termes de ressources qui sont en train d'être alloués au secteur, surtout pour l'électrification rurale et périurbaine. Et nous voulons, en tant qu'agence d'électrification et par rapport au mandat que le gouvernement nous accorde, de pouvoir jouer ce rôle de coordination de tous ces investissements pour pouvoir avoir un cadre commun de travail sur lequel nous ferons les suivis avec les différents partenaires.
Plus spécifiquement, ANSER souhaite à l'issue de cette table ronde aboutir à la présentation d'un programme 2021-2030 du gouvernement pour un développement harmonieux du marché de l'électricité en RDC pour booster le développement des zones rurales et périurbaines. Entre-temps, au Nord Kivu, une trentaine d'acteurs de la société civile et cadres du pouvoir coutumier des territoires de Masisi, Nyiragongo et Rutshuru appellent à une mobilisation contre la dégradation du parc national des Virunga. Ils ont fait ce plaidoyer à l'issue d'une journée de réflexion organisée par l'ONG Innovation pour le développement et la protection de l'environnement hier à Munigi, dans le territoire de Nyiragongo. Ces acteurs alertent que les secteurs sud et centre du parc des Virunga connaissent une dévastation accélérée à la suite d'une exploitation et trafic illicite de leurs ressources floristiques et faunistiques par un réseau mafieux impliquant entre autres le M23. Il demande notamment au gouvernement de restaurer la paix dans la zone. Autre nouvelle, la RDC célèbre demain vendredi 30 juin son 63e anniversaire de l'indépendance. Si sous la colonisation, le pays était une des colonies les plus urbanisées et éduquées d'Afrique, actuellement la RDC compte parmi les pays les plus instables et pauvres du continent, constat de plusieurs historiens en marge de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Radio Kapi vous propose à cet effet une série de reportages et dans ce premier numéro, Michel Kifindangoy nous fait un parallélisme entre la vie sociale des Congolais d'avant 1960 et ceux d'après. Suivez.
Avant 1950, raconte David Van Reybroek, 40% des Congolais étaient salariés et 60% d'enfants allaient à l'école. Le salaire était en pleine augmentation jusqu'en 1956 avant de régresser désormais. Le chômage paraît dans les grandes villes comme Kinshasa, qui compte plus de 20 000 chômeurs. Ces derniers se font donc loger chez des proches qui ont encore un revenu. Conséquence, les maisons et les parcelles de la cité deviennent surpeuplées et des petits bars poussent depuis lors comme des champignons. Et c'est dans cette atmosphère d'agitation qu'ont lieu les premières élections. Au lieu de travailler pour préserver la classe moyenne laissée par les Belges, les nouveaux parlementaires consacrent plutôt les inégalités salariales, déplore le professeur Mokonda Bonza.
En 1960, dès que le Parlement a été constitué, la première décision que l'Assemblée nationale a eu à prendre, c'était de multiplier les indemnités de parlementaires par 5. On est allé de 100 000 à 500 000. Donc, le dérapage a commencé dès 1960.
À partir de ce moment, la classe politique s'enrichit de plus en plus au détriment des autres catégories de la société, occasionnant ainsi une vraie cassure.
Je vous l'ai dit dans les titres, dernier jour ce jeudi de la passation des épreuves d'examen d'État édition 2023 en Ituri, des chefs d'établissement scolaire de Boulé dans le territoire de Djougou félicitent les casques bleus de la MONUSCO pour avoir escorté des camions qui ont transporté 225 élèves finalistes à Fataki pour passer ces épreuves. Il s'agit pour la plupart des enfants des parents déplacés dont nombreux vivent dans des sites. Le but de cette escorte était aussi de sécuriser le convoi dans cette zone où opèrent les hommes en armes qui tendent régulièrement des embuscade aux passants. Jean-Claude Loki.
Ce sont des élèves finalistes de 8 écoles secondaires de Boulé qui avaient pris place samedi à bord des camions mis à leur disposition par des opérateurs privés. Ce que rapporte Jérémy Djakissa, préfet de l'Institut 2 de Boulé, il indique que les parents de ces élèves étaient dans l'incapacité de trouver 20 000 francs congolais pour payer le transport aller-retour à ces finalistes. Cette autorité scolaire dit que l'appui des casques bleus a sauvé l'année scolaire de ces enfants qui ne pouvaient pas se rendre au centre des examens.
Les parents se sont démenés quand même pour payer les différents frais. Pour quitter Boulé, pour Fatak, vraiment, ni t'étais à MONUSCO, certains élèves n'allaient pas passer ces examens-là. C'est-à-dire, MONUSCO, vraiment, nous a beaucoup aidé. C'est une zone-là qui n'est contrôlée par la FADC. Le passage à même principal, disons, des miliciers, là. C'est-à-dire, il faut des va-et-vient par là. C'est pourquoi on avait même peur et c'est pourquoi on avait sollicité aussi, si pas même le transport, mais l'escorte de la MONUSCO.
Le mois dernier, une centaine d'élèves de ces mêmes écoles avaient été transportés par les casques bleus de Boulé à Fataki pour passer l'examen hors session de ces épreuves nationales. Boulé-Fataki, un tronçon d'une dizaine de kilomètres, mais à haut risque au sécurité des hommes en armes qui n'hésitent pas à ôter la vie aux usagers de cette route, renseignent nos sources sur le terrain. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Kapi.
Du côté du Nord Kivu, dans la ville de Beni, le chef de la sous-division de l'enseignement primaire et secondaire met en garde les étudiants qui ont l'habitude de perturber la fin de l'examen d'État. Olivier Matsoro l'a fait savoir hier à la veille de la fin des épreuves écrites de l'examen d'État. À cette occasion, il a indiqué que des éléments de la police seront déployés dans tous les centres d'examen afin de protéger les élèves finalistes. Olivier Matsoro est au micro de Marc Marofimbo.
Vous voyez bien le climat est serein et vous remarquez que tout va bien. Nous sommes plongés dans cette activité du lundi au jeudi. Les étudiants qui perturbent la situation, surtout les derniers jours, seront maîtrisés par la police qui est déjà, tous les policiers sont dans tous les centres et depuis 2 ans, la police nous aide beaucoup dans cette pratique que nous ne pouvons pas qualifier de louable. Parce que les étudiants, ce sont eux qui devaient intégrer leurs cadets dans leurs institutions respectives. Nous sommes déçus qu'ils soient les premiers à déranger le climat, surtout les derniers jours. Mais la police est là, elle va s'occuper d'eux. C'est une antivaleur. Or, nous ne pouvons pas accepter les antivaleurs dans un exercice comme le nôtre.
Dans l'actualité aussi, Nord Kivu, le commandant de la 34e région militaire met en garde toute personne qui s'appellerait ou qui agirait sous la casquette de la force d'autodéfense appelée Wazalendo. Devant la presse hier à Goma, cette autorité militaire souhaite que chaque combattant reste tel qu'il est dans son groupe armé sans utiliser l'épithète Wazalendo qui, d'après lui, prête à confusion, tout en encourageant l'initiative des jeunes combattants pour la noble cause patriotique de combattre l'agresseur. Il estime que quelques groupes des Wazalendo jouent plutôt le jeu de l'ennemi, alors que d'autres agissent patriotiquement pour le bien du pays. Les propos du général-major Mpezo Mbele, recueillis par Gabriel Wamenya.
Wazalendo ne gère rien. Ni moi encore, nous ne gérons pas les Wazalendo. Ce sont des enfants du pays qui font la défense de leur milieu local contre l'invasion extérieure qui est manifeste d'ailleurs. Mais ici, c'est le phénomène du nom, l'appellation là. Voilà. C'est pas que nous sommes contre cette attitude là de pouvoir défendre le pays partout où il se trouve. Mais cette épithète là, ce nom là, Wazalendo, c'est ce qui fait problème. Ça fait vraiment une problématique et pour régler cela, nous estimons et nous pensons que nos frères et amis comprennent cela. Ils restent ce qu'ils sont, mais qui n'utilisent plus le terme Wazalendo. Celui qui tombe dans le désordre, et c'est un peu de troubler l'ordre public, il n'y a pas une disposition à attendre. C'est clair. Si on dit que personne ne doit se promener en ville en armes, personne ne peut être dans la ville en tenue militaire lorsque vous n'êtes pas militaire ou policier. Donc vous êtes dans les troubles publics et on va vous arrêter. Qu'ils fassent très attention. J'ai dit ceci, c'est une guerre par procuration. J'ai dit qu'il y a d'autres groupes armées qui agissent pour le compte de la défense du pays, mais il y en a qui agissent pour le compte de l'ennemi, qu'ils soient prudents.
Actualité internationale. Le vote du Conseil de sécurité qui devrait acter la fin réclamée par le Mali de la mission de l'ONU dans le pays, MINUSMA, a été reporté de jeudi à demain vendredi, ce en raison des discussions qui se poursuivent, indiquent des sources diplomatiques. Rappelons que le 16 juin, prenant tout le monde de court, le ministre malien des Affaires étrangères avait exigé le retrait sans délai de la MINUSMA, dénonçant ce qu'il qualifie d'échec de la mission. Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.